La Méridienne.
Notre invité du jour, c'est Mandana Etemad. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu nous voir. Vous êtes la directrice, je me suis trompé dans l'intro, de l'association Solidarité Femmes Beaujolais. Et vous êtes co-directrice.
Tout à fait, avec Thibaut, avec qui on a créé l'association il y a bientôt 4 ans.
Ouais, c'est donc né en 2020. Vous étiez venu nous parler de la création de cette association et on vous suit depuis. Comment est-ce que vous la présentez, l'association Solidarité Femmes Beaujolais ?
Alors, quand on en parle rapidement, on dit que c'est une association qui lutte contre les violences, avec le parti pris de s'intéresser particulièrement aux milieux ruraux. On a installé l'association, en fait, à partir d'un village de 1200 habitants, ouais. La Mure-sur-Azergue, ce qui est une démarche très inédite. Jusqu'à présent, on a plutôt des grosses associations professionnelles qui sont formidables, qui font un travail vraiment incroyable, mais qui s'installent à partir de milieux urbains. Voilà. Et donc, nous, notre parti pris, c'est vraiment d'aller en ruralité et en grande ruralité.
J'ai vu un chiffre, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était sur une de vos affiches. Le milieu rural, ça représente 30% de la population française. Et pour autant, ça représente 50% des féminicides.
Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que chaque année, en France, il y a une femme qui est tuée par son conjoint, par son chéri, par son petit ami, tous les 2-3 jours. Ouais. Et parmi tous ces féminicides, il y en a 50% qui ont lieu en milieu rural. En fait, il n'y a pas plus de violence en milieu rural, hein, ça c'est important. En fait, quel que soit, ça c'est important de se le dire, quelle que soit la classe sociale, quel que soit si on est riche, si on est pauvre, notre niveau d'études, quel que soit le territoire, quel que soit notre âge aussi, il y a une femme sur 10 qui est victime de violence conjugale.
Ouais.
D'accord. Et donc, on a en milieu rural une femme sur 10, comme partout, qui est victime de violences conjugales. Mais on a plus de féminicides parce qu'en fait, en milieu rural, eh bien, on a moins de ressources pour s'en sortir. Ces femmes-là, elles sont plus isolées. Elles retrouvent moins d'aide et de lieux d'écoute et de soutien.
Et il n'y a pas de facteur déterminant ? Enfin, vous nous disiez que dans tous les milieux, ça peut arriver, les violences
bien
conjugales.
Sûr.
Il n'y a pas de facteur.
Non. En fait, on dit souvent qu'il n'y a pas de profil type.
Ouais.
Qu'on soit victime ou qu'on soit agresseur, on a des parce que malheureusement, par contre, ce qui se retrouve dans 90% des situations, c'est un homme qui exerce de la violence sur une femme. Ça, c'est malheureusement le facteur qu'on retrouve partout. Et c'est lié à ce dont on va parler aujourd'hui, donc la journée des droits des femmes. En fait, c'est parce qu'il y a des inégalités dans la société, parce que dans la société, les femmes sont à beaucoup d'endroits, encore à beaucoup trop d'endroits, ont moins de droits que les hommes, sont moins considérées que les hommes, que certains hommes, en rentrant à la maison, exercent sur leurs femmes, pensent avoir le droit d'exercer sur leurs femmes un rapport de domination.
Ouais. Parce qu'il y a des petits garçons qui grandissent dans une société où il y a un décalage entre les hommes et les femmes.
Bien sûr.
Ça crée des biais, en fait.
Exactement.
Et de la violence.
On parle beaucoup des stéréotypes de genre.
Ouais.
C'est important qu'on se dise. Notre cerveau, pour toutes les informations qu'on croise dans le monde, pour s'orienter, en fait, dans ce flot d'informations, il fait des catégories. Il va dire, ça, c'est des filles. Ça, c'est des garçons.
Okay.
Mais comme il va dire, ça, c'est des choses qui se mangent et c'est des choses qui ne se mangent pas. C'est normal. Enfin, on fait des catégories parce que ça nous permet de penser plus vite. Voilà. Par contre, quand on a l'habitude de voir des filles, des femmes à la cuisine, on peut dire, les femmes que je connais font la cuisine, c'est très bien. Par contre, la difficulté, c'est quand on se dit, toutes les femmes font la cuisine et la place des femmes est en cuisine, et surtout, si tu n'es pas à la cuisine, tu vas voir, prends garde à toi.
Ouais.
C'est là la difficulté.
Okay.
Et c'est très bien que beaucoup de femmes soient à la cuisine, tant mieux, mais c'est aussi important qu'on ait des hommes en cuisine, si on veut aller jusqu'au bout de cette image-là, parce que ça va nous permettre en fait, de construire des images et des rapports qui vont être plus égaux.
À quoi elle sert cette journée internationale des droits des femmes et vous, votre association, comment est-ce que vous vous en saisissez ?
Alors cette journée internationale, elle sert exactement à faire ce qu'on a commencé à faire, ce qui est formidable, de pouvoir en parler, c'est ça. Et puis, de pouvoir se mobiliser. Il faut savoir que nous, évidemment, on est mobilisés toute l'année, tous les jours. C'est notre mission. On a créé l'association pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et pour lutter contre les violences faites aux femmes, il faut parler, il faut encourager l'égalité, promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Une égalité de fait, c'est pas seulement de droit. Parce qu'aujourd'hui, les droits entre les hommes et les femmes avancent, évidemment.
Sur le papier, tout va bien.
Tout va mieux, tout va beaucoup mieux. Mais par contre, c'est une belle occasion en fait, de se retrouver tous et toutes ensemble. L'idée de cette journée internationale, comme la journée du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est vraiment pour que chacun et chacune puisse s'engager à nos côtés, prendre un moment plus ou moins long, mais un moment important pour se questionner, chercher des informations, se poser des questions différentes, et puis construire un nouveau positionnement, de nouveaux outils.
Mmh. Et donc, on peut vous voir à plein d'endroits. Là, cette semaine, vous étiez sur de nombreux marchés du Beaujolais, avec vos gilets roses.
Oui,
roses fluo, on vous voit bien, on vous voit de loin. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous dites aux gens quand vous les rencontrez dans ce cadre-là? Et qu'est-ce que vous leur dites?
Oui, en fait, c'est vraiment devenu une habitude pour nous. Depuis qu'on a créé l'association, l'association, elle est créée à partir d'un collectif d'habitants, d'habitantes, déjà à l'origine. Il y avait parmi nous des professionnels de ce métier-là, mais pas seulement. Des gens du monde agricole, des commerçants, des commerçantes, des professions médico-sociales, bien sûr, des entrepreneurs, des entrepreneuses. Il y avait vraiment plein de profils différents qui se sont réunis, qui se sont questionnés et qui se sont dit, bah, finalement, comment est-ce qu'on peut être plus nombreux? Bah, c'est aller en allant à la rencontre des autres, en allant se questionner, en allant aussi accepter que chacun et chacune ait un moment différent de son cheminement. Ouais. En fait, moi, il y a quelques années, qui suis pourtant aujourd'hui fondatrice, cofondatrice de cette association, directrice de l'association, il y a quelques années, franchement, j'aurais pu dire des grosses bêtises sur les violences faites aux femmes.
Okay.
Et c'est vrai, c'est avec beaucoup d'humilité que je le dis. Et donc aujourd'hui, je regarde les personnes qui ne savent pas encore avec beaucoup d'attention, en leur disant, même, on ne savait pas, nous ensemble, on ne savait pas. On ne savait pas faire, on ne savait pas voir, on ne savait pas quoi dire. Par contre, maintenant, on peut apprendre à faire et on peut changer les choses. Et ouais. Donc, cette occasion du 8 mars, c'est vraiment l'occasion d'aller à la rencontre des personnes, se présenter, dire qu'est-ce qu'on fait, quels sont les chiffres, on le disait. Il y en a des chiffres fondateurs que tout le monde devrait savoir. Une femme sur 10 aujourd'hui est victime de violences conjugales. C'est 20% des féminicides qui concernent une personne de plus de 70 ans. Donc c'est vraiment à tous les âges. Hein. C'est 20%, même à un âge plus avancé, on peut être concerné par ces questions de violence. Et c'est beaucoup trop de féminicides en milieu rural, comme on l'a dit tout à l'heure.
Et quand vous rencontrez des gens, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est qu'est-ce qu'eux, ils vous disent quand ils vous voient sur les marchés, comment est-ce qu'ils vous perçoivent et qu'est-ce qu'ils...
Mais de mieux en mieux, c'est déjà bien. C'est pas toujours évident. On a des personnes, on profite quand même d'une situation médiatique qui fait que, on dit souvent que la parole se libère. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette formulation, mais en tout cas, on en entend de plus en plus parler. Parce qu'en fait, nos associations historiques, depuis 40 ans, les femmes et les hommes qui s'engagent sur ces questions-là depuis bien longtemps, nous disent, la parole, elle est libérée depuis longtemps. En fait, les victimes de tout temps ont toujours parlé. Elles ont toujours confié à un moment donné ce qu'elles vivaient. La difficulté à laquelle elles se sont beaucoup confrontées, c'est qu'on n'était pas prêts, on ne savait pas les écouter. Donc ce qui a changé, c'est pas que la parole se libère, c'est que nos oreilles en fait s'ouvrent, et c'est tant mieux, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant la question, c'est comment est-ce qu'on peut être prêt et prête à entendre, parce que cette première écoute, le premier moment où la victime va parler, c'est un moment fondateur, déterminant pour la sortie des violences. Voilà. Et donc ces personnes qui viennent nous voir, eh bien on en a qui sont déjà convaincues, qui nous disent que c'est formidable et ça nous donne beaucoup de joie et beaucoup de force pour continuer, et ça c'est important qu'on se réunisse pour ça. On a plein de gens aussi qui se questionnent, qui voudraient en savoir un peu plus. Et puis, on a aussi des personnes qui sont pas forcément en accord avec ce qu'on fait. Voilà. Et pour nous, en fait, c'est assez important que ça puisse aussi être dit, ça. Voilà, qu'on puisse aussi se dire qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui nous disent très souvent, trop souvent, eh bien non, ça n'existe pas dans nos campagnes. Moi, je connais tout le monde. Ouais. Si ça existait, je le saurais, madame. Ça n'existe pas. Il n'y a pas besoin dans mon village. Mmh. Et ça, je peux l'entendre, parce qu'en fait, je peux comprendre qu'on croit connaître ce qui se passe autour de nous, parce qu'en fait, les violences, et particulièrement les violences conjugales, elles sont cachées. Mmh. En fait, elles sont cachées par l'agresseur, pour les raisons dont on se doute, mais aussi par la victime. Ouais. Parce que la victime, en fait, elle a peur de parler, bien sûr, elle a peur que ça se voit, elle sait qu'il y a des menaces, derrière il y a un vrai risque. Et puis elle a honte. Ouais. Et quand on a honte, c'est très difficile de parler.
Et la culpabilité,
vous avez raison. Si je me sens coupable, parce que l'agresseur met tout en œuvre pour qu'elle se sente coupable de ça. Si je me sens coupable de quelque chose, eh bien, je peux pas demander à l'aide. Je peux pas venir me plaindre. Je peux pas appeler au secours. Ça fonctionne pas. Donc elle le cache aussi, malheureusement. Ouais. Donc c'est important pour nous de prendre la parole et de dire, on est là maintenant. Ce qu'on dit toutes à travers la France, toutes ces associations et toutes ces personnes mobilisées. on est là maintenant, on vous croit et on vous soutient.
Ouais. Et une personne sur dix, une femme sur dix, est victime de violence. Juste ce chiffre-là est fou. Et à partir de ce moment-là, il faut imaginer 10 femmes qu'on connaît, il y en a potentiellement une
qui est victime actuellement.
Qui est victime actuellement.
Et on dit que les études nous disent que c'est une femme sur cinq qui a été, est ou sera victime de violence conjugale dans sa vie si on ne bouge pas rapidement nos façons de fonctionner.
Je suis allé faire un tour ce matin sur votre site internet. Avant chaque interview, je fais ça pour préparer. Et j'ai vu une super vidéo où on vous voit justement aller dans les marchés, vous expliquer ce que vous faites. Et il y a un moment où j'ai vu un petit panneau, c'est très rapide, il y a écrit « Écoutez ». Et vous en parlez de l'importance d'écouter. Et je voulais vous demander, du coup, comment est-ce qu'on écoute ? Comment est-ce qu'on écoute bien ? J'ai l'impression qu'on le fait pas forcément.
On n'apprend pas, hein. C'est vrai que c'est des choses qu'on apprend pas. Souvent, nous, notre préconisation, alors on fait plein de formations, de sensibilisation, partout où la porte nous est ouverte, partout où elle est même un peu entrouverte, on entre et on essaye de passer ces messages-là. Puisqu'on n'a pas appris, la première des choses, c'est aussi d'accepter qu'on n'est pas capable d'entendre et d'écouter tous les jours, tout le temps. Voilà, on n'est pas tous égaux et égales à ce sujet-là, et ça, c'est important de se le dire. Et comme ça peut être quelque chose qui peut être difficile, la première des choses, d'abord, pour pouvoir écouter, c'est de bien respirer soi-même. prendre le temps, c'est quelque chose d'important, de se sentir soi-même en sécurité et de permettre à la personne qui est sur le point de parler ou qui a commencé à parler, de se sentir en sécurité pour qu'on ait une qualité d'échange et d'écoute qui soit bonne. Et puis aussi, il y a quelque chose de fondamental que font nos travailleuses sociales, mais que vous pouvez tous faire, toutes faire autour de nous, c'est vraiment accepter en fait la temporalité de chacune. L'idée, si vous voulez, c'est de ne pas faire des projets pour l'autre. On a des femmes qui sont très courageuses, malgré l'image qu'on a aujourd'hui des victimes de violences conjugales. Elles sont des survivantes. Elles mettent en place tous les jours des stratégies incroyables qui leur prennent beaucoup de force, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour éviter la violence, pour survivre à la violence. Comme on pourrait le faire en temps de guerre, comme on pourrait le faire à survivre après un attentat. On sait que les psychotraumas sont les mêmes, les conséquences sur elles sont les mêmes. Et donc, c'est important qu'en fait, on accepte qu'elles sont des êtres, des adultes à part entière, et qu'on doit accepter leur propre cheminement. Il n'est pas question, je ne crois pas en tout cas, on ne croit pas qu'il soit à partir du moment où la personne a commencé à parler et que ça puisse vraiment fonctionner, de dire ah bah, je t'emmène immédiatement, je vais te faire tes valises et tu dois absolument partir maintenant. J'entends que ce soit une envie et qu'on veuille absolument mettre en sécurité les gens, même contre leur gré, sauf qu'aujourd'hui en France c'est 7 allers-retours pour chaque femme victime de violences conjugales. 7 allers-retours, je pars 7 fois et je reviens 6 fois avant de définitivement, en moyenne, quitter le logement où je subis de la violence. En fait, ces allers-retours, ils sont normaux. On essaye, nous, de les limiter au maximum. Mais ils sont dus au fait que la peur, les menaces, la honte, la culpabilité, les difficultés à partir, à trouver des hébergements, les difficultés avec la justice, même si beaucoup de choses s'arrangent, avec les enfants aussi, hein, bien sûr, qui peuvent être sous emprise. Voilà.
C'est une relation amoureuse à la base dans la vie.
Et oui, bien sûr. C'est très, très difficile. Le regard aussi des gens. Voilà, c'est très, très difficile de partir en une seule fois. Et celles qui arrivent, bravo, vraiment. On a beaucoup d'admiration pour vous, et puis on en a qui mettent encore plus d'aller-retour avant de définitivement quitter le logement, et c'est ok, on vous soutient en fait. L'idée, c'est vraiment, pour écouter, d'accepter qu'en fait, on va être un soutien. On va permettre à la personne de faire ce petit bout de chemin. Et c'est à chacun et chacune, hein, les témoins, les proches, de dire aussi, d'être assez clair, moi, je ne peux pas t'accompagner sur le long terme. Je ne peux pas être à tes côtés. Ça me coûte trop, ça me fait de la peine. C'est important aussi qu'on puisse accepter ça. Et c'est là que l'association peut prendre le relais. De dire, proposer de nous appeler. On est là. Nous, on ne passe pas les coups de téléphone en direct. Il faut qu'on nous contacte. Mais à partir du moment où vous nous contactez, on a des travailleuses sociales qui sont formidables. Isabelle, Karine, j'ai envie de les citer, Sandy, Elsa, Thibaut aussi, qui sont des personnes formidables, qui s'engagent tous les jours et qui vont prendre le temps vraiment de vous soutenir, quel que soit votre projet, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. On va construire ensemble des solutions.
C'est quoi les moyens de l'association ? Vous avez, je crois, vous êtes 8 salariés maintenant et une grande équipe de bénévoles.
Oui, 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 oui. Au tout début de l'association, on nous disait il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de cette association.
Ça doit être énorme.
Non, mais nous aussi, on avait un doute, on ne savait pas. Ouais. Voilà, on se disait quand même, on sait qu'il y a des victimes de violences conjugales partout, on sait que cette violence, elle existe partout, on était un peu, même nous, on était un peu dans l'expectative. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'en 2022, on recevait une nouvelle situation par semaine. On avait un seul salarié, Thibault, qui est le fondateur de l'association, grâce à qui il n'y aurait pas d'association aujourd'hui.
Sans qui il n'y aurait pas d'association aujourd'hui.
Donc c'était notre seul salarié en 2022, une nouvelle situation par semaine. En 2023, c'est une nouvelle situation par jour. Et grâce au soutien de l'État, de la CAF, de la MSA, de la région, du département, on a pu passer à 8 salariés pour accompagner les femmes et les enfants victimes de violences, et puis aussi pour mener des actions de prévention. Puisque on fait, l'année dernière, on a fait presque 34-35 événements pour aller à la rencontre des habitants et des habitantes du territoire. Et puis, on mène des actions, comme je le disais, de formation, de sensibilisation, avec un petit point d'attention particulière pour le travail de Céline, qui va dans les écoles primaires depuis mars l'année dernière, qui a vu 250 enfants l'année dernière avec leurs professeurs, avec leur famille, 150 enfants depuis le début de l'année. Et ensemble, grâce au travail qu'elle a accompli cette année, eh bien, on a obtenu l'agrément de l'éducation nationale, de la région, en fait, un agrément local des forces vives de l'éducation nationale qui sont venues voir ces ateliers et qui ont dit « Ce sont des ateliers de qualité et nous vous recommandons de les organiser dans vos écoles. » Et ça, c'est important si on veut pouvoir construire, en effet, des rapports différents dans l'avenir.
D'être reconnu et de parler aux plus jeunes.
Oui, notre parti pris, c'est vraiment les 6-11. Ouais. C'est les écoles primaires. On ne va pas parler de sexualité en direct, non. Mais par contre, on va parler, par exemple, de consentement. On va dire le consentement, ce n'est pas qu'une question d'intimité, c'est une question du quotidien. Le consentement, c'est oui, c'est vrai, c'est apprendre à dire oui, non, vraiment de façon claire, ça c'est important, c'est sûr. Ouais. Mais ce n'est pas seulement ça, le consentement. C'est aussi se questionner sur comment est-ce que je vais réagir si on me dit non. Aussi ça, finalement, le consentement. Et bien, quand on pose ces questions-là aux enfants, quand on travaille avec eux sur des jeux de rôle, avec des livres, avec des activités créatives qui sont à leur niveau, avec leur vocabulaire aussi, et bien, on se rend compte qu'elles ont beaucoup, beaucoup de choses à dire et qu'elles ont envie de pouvoir construire des outils différents, un regard différent sur les rapports entre les gens.
Il y a plein d'événements qui ont eu lieu tout au long de la semaine. Il y en a encore deux ce week-end. Il y en a un aujourd'hui à Tarare, c'est un ciné-débat avec la projection du film We Want Sex Equality. Et dimanche à Belleville, le film Il Reste Encore Demain.
Oui, à 16h.
C'est des ciné-débats.
Oui, tout à fait.
Vous intervenez après le film pour
exactement.
En parler.
Exactement, oui, oui, oui.
Il Reste Encore Demain, vous m'avez dit que c'était super.
Oui, mais We Want Sex Equality aussi. Ces deux films sont formidables. Les ciné-débats, la partie échange va être super aussi. Mais j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce film, Il Reste Encore Demain. C'est un film qui est très beau, d'abord, qui est très bien réalisé, et puis aussi qui traite de beaucoup beaucoup de choses. Moi, je trouve que la place des hommes dans ce film est très intéressante. On a un vrai enjeu dans les prochaines années aussi même maintenant si on veut, avec grand plaisir, à se questionner sur c'est quoi être un homme aujourd'hui. Et dans ce film, on a plein de modèles qui sont très très intéressants, qui sont pas forcément à suivre, hein, malheureusement, parce que
c'est important les contre-exemples aussi.
Mais oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des quantités de façons d'être un homme aujourd'hui dans notre société qui participent à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et dans votre actualité, il y a aussi, c'est une actualité régulière, on va dire, tous les mois, vous avez des rendez-vous pour discuter à la mûre, si je
oui, tout à fait,
bêtises.
Exactement. On propose au moins une rencontre par mois. La prochaine, c'est le 11 mars à la mûre. On va parler de notre projet de maison Solidarité Femmes Beaujolais. Ça va être quand même un fil rouge un peu cette année, puisqu'on a eu une opportunité folle de pouvoir en fait aménager dans une maison qui est parfaite, parfaite pour nous, dans laquelle on va aménager nos bureaux, un espace d'accueil où les femmes et les enfants pourront venir trouver des ressources donc au sein de l'association, et puis aussi un appartement dans lequel trois familles vont pouvoir emménager pour se mettre en sécurité, parce que on s'est rendu compte en fait dans les dernières années que ces familles-là, ces femmes-là en fait étaient vraiment vraiment trop nombreuses à devoir quitter leur logement pour se mettre en sécurité. Ce qui est déjà difficile, mais en plus, quand elle n'avait pas la possibilité de prendre un logement en direct, ce qui est la majorité des situations, hein, pour la majorité des femmes qui quittent un logement, qu'elles aient de l'argent ou pas, hein, d'ailleurs, hein, c'est important de se le dire, c'est très difficile de prendre un logement tout seul, tout de suite. Et on avait peu de ressources, peu d'endroits où les orienter, il y avait très peu de places d'hébergement d'urgence sur nos territoires, et donc elles étaient obligées de quitter leur territoire. C'est quand même ce qu'on appelle la double peine, hein, une des formes de la double peine. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aussi pouvoir permettre à ces femmes, celles qui le souhaitent, de rester sur leur territoire, de trouver un endroit où elles se sentiront en sécurité, où elles pourront prendre une grande respiration, se reconstruire, se remobiliser, et puis rebondir vers une nouvelle vie et accompagnées de l'association aussi longtemps qu'elles le souhaiteront.
Ça demande de l'argent de créer ça. Vous prenez des dons. Vous avez organisé une soirée hier de...
Un grand gala caritatif.
Un grand gala caritatif.
Oui, c'est ça. Oui, on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui suivent l'association. Nous, on a aussi une posture depuis le début. Hein, comme je le disais, l'association elle a été créée par des citoyens et citoyennes de la société civile. Hein. On veut vraiment que ce soit un espace ouvert, un espace de discussion. Venez nous poser des questions. Nous, on vous raconte tout ce qu'on fait. Hein. C'est très, très transparent, l'activité de l'association. Donc, on le redit. Oui. Aménager cette maison qui est voisine de la gendarmerie, c'est fou quand même, qui est vraiment parfaite pour nous, ça coûte des sous en travaux. Voilà. C'est une grande difficulté pour nous. Il faut qu'on trouve du mécénat parce qu'on a très peu de subventions. On a quelques institutionnels qui vont se positionner, qui vont nous soutenir. On attend des réponses de pied ferme et avec beaucoup d'enthousiasme. Mais on a besoin de dons, on a besoin de mécénat parce qu'on sait que les subventions ne suffiront pas. Malheureusement. Et donc, c'est l'occasion pour moi de le rappeler. Aujourd'hui, à chaque fois que vous faites un don de 100 euros, alors je dis 100 euros, mais ça peut être moins, ça peut être plus, bien sûr, dans la limite de 1000 euros, dès que vous faites un don, par exemple, de 100 euros à l'association, et vous bénéficiez d'une réduction d'impôts en fait, de 75 euros. Donc, si vous payez des impôts, ce don en fait, de 100 euros vous en coûte 25.
Ouais.
Voilà, ce qui est chouette.
Ce qui n'est pas plus mal. Une dernière question que j'avais notée, est-ce qu'on parle de l'interruption volontaire de grossesse qui était inscrite?
Oui, l'IVG est dans notre constitution, c'est formidable.
C'est bien.
Oui, oui. Ben, c'est une date historique.
Ouais.
Que cette possibilité-là soit enfin inscrite dans ce texte fondateur, c'est important. Et puis ça reprend ce qu'on s'est dit pendant tout cet échange, en fait. Ce qui est important, c'est la mobilisation citoyenne pour faire avancer les choses, en fait. C'était une mesure qui était... dont une grande, grande partie de la population était favorable. Mmh. Et donc, c'est important que ça puisse avancer. C'est important qu'on puisse continuer à se mobiliser parce qu'on n'a pas fini, parce que c'est pas... il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais c'est un symbole fort, quand même, dans un monde international où ce droit à disposer de son corps recule de plus en plus partout. Et le fait que les femmes... soient considérées comme des êtres humains à part entière qui ont le droit de disposer de leur corps, c'est quand même quelque chose de fondateur et de fondamental qu'on doit absolument protéger.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous, Mandana. Solidarité Femmes Beaujolais, il y a un site internet, il y a un numéro de téléphone que je n'ai pas en tête. Est-ce qu'on le donne, ce numéro de téléphone?
Est-ce que moi je le connais par cœur? Oui, 07 88 14 98 85.
Et le numéro d'urgence, c'est le 3919 en cas de situation.
Alors en fait, c'est pas vraiment un numéro d'urgence parce que si vous êtes en danger, si vous avez besoin d'aide, vraiment appelez la gendarmerie, la police, ouais. Les pompiers s'il y a des soins à porter tout de suite. Par contre, le 3919, c'est vraiment un numéro d'écoute spécifique qui est ouvert par contre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que parfois c'est à des moments un peu et souvent malheureusement des moments moins courant, ou que ces femmes-là en fait, sont disponibles pour pouvoir parler en toute liberté.
Très bien. Merci encore d'avoir passé ce temps avec nous.
Merci, Mathieu.
À très bientôt.
La Méridienne.